France, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Priorité Santé. Il y a un peu plus d'un mois, en octobre dernier, le Mexique accueillait la 48e conférence mondiale sur la santé respiratoire. Une rencontre majeure entre des acteurs de premier plan de la lutte contre la tuberculose qui se déroule chaque année dans un pays différent. Rencontre qui permet de faire un bilan de la lutte contre cette maladie. Rappelons qu'aujourd'hui, la tuberculose est la maladie infectieuse qui tue le plus au monde. Chaque année, selon l'OMS, 1,5 million de personnes en meurent, alors que les formes résistantes de la maladie se développent de façon inquiétante en Asie et en Afrique australe notamment. Alors, quelles sont les dernières avancées en matière de lutte contre la tuberculose? Pourra-t-on atteindre les objectifs du développement durable, à savoir plus aucun nouveau cas de tuberculose d'ici à 2035? Élément de réponse avec Igor Strauss qui assistait à cette conférence pour Priorité Santé. Igor Strauss, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Alors pour bien comprendre la situation actuelle, il faut remonter 2 ans en arrière. Décembre 2015, lors de la 46e conférence mondiale sur la santé respiratoire, ça se passait au Cap en Afrique du Sud et vous l'aviez suivi pour RFI.
Oui, et lors de l'ouverture de cette conférence, le ministre sud-africain de la Santé, le docteur Aaron Motsoaledi, qui est toujours ministre aujourd'hui, avait rappelé qu'avec les politiques menées jusqu'en 2015, on pourrait envisager l'élimination de la tuberculose d'ici 200 ans. Une façon ironique de pointer du doigt les insuffisances en matière de lutte contre cette maladie qui fait des ravages dans de nombreux pays. Si on prend le cas de la tuberculose multirésistante par exemple, les pays les plus touchés sont l'Inde, la Chine, la Russie, l'Ukraine et le Pakistan avec 60% des cas dans le monde. Mais les pays d'Afrique australe comme le Lesotho, le Swaziland ou l'Afrique du Sud sont les pays avec le plus fort taux de tuberculose par habitant, avec 700 000 cas pour 100 000 habitants, ce qui est énorme, Caroline.
Igor Strauss, une fois ce constat établi, qu'est-ce qui a été décidé lors de la conférence au Cap il y a 2 ans?
Vous vous en doutez, Caroline, de nombreux objectifs ont été fixés. Déjà, en termes de rhétorique, on a parlé d'un changement de paradigme. Il fallait voir plus grand, investir davantage pour faire plus et mieux. Ainsi, le partenariat Halte à la tuberculose a présenté son programme 2016-2020, un programme ambitieux, disait-on à l'époque, avec à la clé un budget de 56 milliards de dollars sur 5 ans, dont 9 milliards consacrés à la recherche, qui en avait bien besoin pour élaborer de nouveaux traitements et pourquoi pas trouver un vaccin. Grâce à ce financement, on devait également atteindre les 90-90-90, à savoir que 90% des malades soient diagnostiqués, que 90% des patients mis sous traitement soient guéris et que 90% des populations clés, c'est-à-dire les toxicomanes, les prisonniers, les migrants et toutes les personnes vulnérables soient détectées. Cette stratégie devait permettre d'arriver à 10 nouveaux cas de tuberculose pour 100 000 habitants en 2020, puis à 0 cas en 2035.
Et ce ne sera pas le cas.
À moins d'un sursaut rapide, on sera loin du compte.
Alors du coup, est-ce qu'on peut parler d'un échec?
On peut, même si les acteurs de la lutte n'aiment pas ce terme et qu'ils préfèrent voir le verre à moitié plein, à savoir les avancées qu'il y a eu ces 10 dernières années, car il y a quand même eu quelques avancées, mais pas autant qu'espéré.
Alors comment expliquer cette absence de résultats? Paola Fujiwara est directeur scientifique de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires.
Le problème avec la tuberculose, c'est pas comme le sida. Il n'y a pas beaucoup de support politique. Mais on est arrivé à un moment où la tuberculose est la maladie infectieuse qui est la plus importante du monde, plus que le sida. Et c'était intéressant parce que cette semaine, nous avons décidé de lancer un rapport pour les chefs d'État pour qu'ils puissent donner beaucoup plus de l'argent et le support politique. Et c'est important parce que l'année prochaine, en 2018, on a cette, on dit en anglais, high-level meeting.
Une réunion de haut niveau.
Sur la tuberculose.
Mais justement, comment expliquez-vous qu'on n'ait pas pris la mesure de cette maladie avant?
Moi, je travaille dans le monde de la tuberculose depuis des années et j'ai vu notre cousin, on peut dire, le VIH, il y a beaucoup de support. Je crois que le sida, c'était lié avec le président du pays, toujours. Mais le programme de tuberculose, c'était dans le ministère de la Santé, c'est plus bas, c'est un niveau plus bas. Il n'y a pas un dialogue avec le chef d'État, avec le ministère des Finances et tout ça.
Je reviens à cette même question hein, sur les objectifs de 2030, à savoir l'élimination de la maladie. Apparemment, nous n'y parviendrons pas. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que c'est uniquement une question financière, une question d'intérêt ? Est-ce qu'on a négligé certaines choses comme la tuberculose bovine notamment ? Comment expliquez-vous ce manque de résultats ?
À mon avis, le plus important, c'est le support politique. Sans ça, on n'arriverait jamais. Mais aussi, quand on parle des choses techniques, on a besoin de diagnostics, on a besoin de nouveaux traitements. Et le plus important sur le monde technique, c'est le vaccin. Sans un vaccin, on n'arrivera jamais. Et vous avez mentionné la tuberculose bovine. Aussi, pour la tuberculose bovine, on doit trouver un vaccin pour les vaches pour qu'on puisse éliminer la tuberculose dans les animaux.
Paola Fujiwara, que l'on vient d'entendre, semble beaucoup miser hein, sur cette réunion de haut niveau en présence des chefs d'État en 2018 à l'ONU.
Tous les acteurs de la lutte contre la tuberculose en attendent beaucoup. Ils espèrent que cela permettra de replacer la tuberculose comme une priorité de l'effort de santé mondiale. Ce serait une première pour cette maladie.
Alors, autre sujet essentiel, la recherche, nouveaux traitements et nouveaux diagnostics. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais tout d'abord, un point sur la tuberculose bovine, Igor Strauss. Elle n'avait pas été prise en compte auparavant.
Chaque pays a sa propre politique concernant la tuberculose bovine qui, rappelons-le, se transmet à l'homme. Mais il n'y a pas de réelle politique globale, faute de moyens. Un pays comme le Mexique, par exemple, l'a prise en compte, mais les difficultés sont nombreuses. Alejandro Pereira Ortiz est vétérinaire au département agriculture des États-Unis d'Amérique.
Le Mexique a développé un programme de contrôle et d'éradication de la tuberculose bovine depuis de nombreuses années. C'était un peu avant les années 1970. Tout a commencé quand les États-Unis ont exigé une certification sanitaire pour tous les animaux importés du Mexique. Du coup, le Mexique a dû intensifier ses actions et établir un système de régulation plus rigoureux, avec entre autres des contrôles des animaux plus sévères. Il y a eu l'obligation pour tous les propriétaires de ranch de faire des tests de tuberculose bovine. Ce système de vigilance a permis d'identifier les animaux positifs afin de les isoler. Ce système de vigilance a également été mis en place dans les abattoirs pour contrôler la qualité de la viande et voir s'il y a des animaux avec des lésions qui sont généralement un signe de tuberculose bovine. Si ces lésions sont présentes, la viande doit être envoyée en laboratoire pour des analyses. Mais il faut bien avoir à l'esprit que la tuberculose bovine est une maladie silencieuse, chronique, avec un temps d'incubation indéfini. Cela signifie que vous avez des animaux infectés depuis très longtemps mais qui ne développent pas encore la maladie et qui n'ont donc pas de lésions. Du coup, la vigilance est très compliquée avec cette maladie et savoir si un animal est contaminé ou non peut aussi être très difficile.
Est-ce que vous pensez que le Mexique pourra se débarrasser dans les prochaines années de la tuberculose animale ou est-ce qu'il y a encore certains problèmes à régler ?
Le Mexique a énormément progressé. Toutefois, la tuberculose bovine est une maladie très compliquée à éradiquer. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de travail en ce qui concerne notamment la propreté des ranchs. Et puis, si un cas est positif, le producteur doit abattre toutes ses bêtes. Mais généralement, il n'y a pas l'argent pour le dédommager. Vous savez, aux USA, le programme d'éradication de la tuberculose bovine fête ses 100 ans. Il a commencé en 1917. Du coup, la prévalence est très très basse, mais il reste encore des cas de tuberculose bovine après 100 ans. Donc c'est vraiment une maladie très difficile à éradiquer. Cela ne se fait pas en 5, 10, 15 ou 20 ans. Il va donc falloir du temps au Mexique vu ses problèmes économiques, parce qu'il faut pouvoir indemniser chaque fermier qui abat ses bêtes, et ça le Mexique n'en a pas les moyens. Du coup cela favorise la transmission interne de la maladie.
Igor Strauss, comment se passe la transmission de la maladie entre bovins ?
Par l'air, par l'eau et par les aliments souillés par un animal contaminé.
Et comment l'être humain peut, lui, être contaminé ?
Bien, en mangeant un animal contaminé ou en buvant du lait non pasteurisé d'un animal contaminé, ce qui est le plus fréquent.
Alors, Igor, vous avez pu visiter un abattoir au Mexique. Comment se passe le contrôle de la viande sur place ?
Bien, moi, j'ai visité un petit abattoir dans la région de Jalisco, au centre-ouest du pays. Chaque jour, quelques 400 bœufs sont
sont abattus sur place. Alors, il y a d'abord un contrôle de l'animal vivant, mais vous l'avez compris, celui-ci peut être porteur de la maladie sans en avoir les symptômes. Ensuite, il y a l'inspection de l'animal décédé, qui est la plus importante, car c'est là que l'on voit les lésions qui se situent généralement à la tête, au poumon ou au foie.
Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un animal est contaminé?
La viande est retirée de la chaîne alimentaire et envoyée en laboratoire pour analyse. Le ranch d'où provient l'animal est ensuite mis en quarantaine. Et pendant 6 mois, il faudra que l'éleveur fournisse 4 preuves au minimum qui montrent que le reste du troupeau n'est pas contaminé. En cas de doute, c'est l'ensemble du troupeau qui doit être abattu car on ne traite pas les animaux pour des questions de coût. Au Mexique, pour chaque animal abattu, l'éleveur perçoit un dédommagement de 3000 pesos, soit environ 135 euros, ce qui correspond à moins de 80% de la valeur de l'animal. Du coup, certains éleveurs font tout pour éviter cela, avec le risque que cela engendre.
Alors voilà pour le Mexique, mais comment la tuberculose bovine est prise en compte au Nigeria? Siméon Kadmous est vétérinaire en charge du contrôle sanitaire des animaux au Nigeria.
Il y a une grande attention portée à la tuberculose humaine au Nigeria, mais peu ou pas d'attention à la tuberculose bovine, alors même que les enjeux sont énormes en termes de santé publique. Il n'y a aucun programme de suivi des animaux qui viennent des pays voisins et entrent au Nigeria. Et au Nigeria, il n'y a pas de restriction sur la circulation des animaux. Et d'après les données en notre possession, la propagation de la tuberculose bovine se fait depuis les États voisins de l'Afrique de l'Ouest. Tout le bétail va dans le nord du Nigeria où l'on trouve les Fulani, une ethnie qui vit de l'agropastoralisme. Mais la plupart des Fulani ne sont pas éduqués. Et comme ils ne sont pas éduqués, ils ne connaissent pas les problèmes des maladies zoonotiques, comme la tuberculose bovine. Et pour compléter le tableau de la situation au Nigeria, il faut rappeler que le secteur de la santé publique animale est très pauvre. Le nombre de vétérinaires est très limité, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc, quand un animal qui n'a pas été testé et dont nous ignorons le statut se retrouve à l'abattoir afin d'être tué pour la consommation humaine, les risques sont énormes. Le meilleur moyen de contracter une tuberculose bovine au Nigeria, c'est d'aller dans un des nombreux abattoirs. Là, la prévalence de la maladie est de 10% en moyenne. La maladie est présente dans tous les abattoirs. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'une grande quantité de viande se retrouve dans la chaîne alimentaire. Comme les animaux ne sont pas examinés, les gens achètent de la viande contaminée, généralement la langue, les poumons et parfois même les muscles. De plus, les gens boivent beaucoup de lait non pasteurisé. Or, on sait que c'est le principal facteur de contamination des humains. Et à cause de la faiblesse des infrastructures de santé, quand quelqu'un se présente à l'hôpital avec une tuberculose bovine, personne ne sait que c'est la bactérie animale de la maladie parce que les moyens dont nous bénéficions pour effectuer le diagnostic sont faibles et qu'on n'est pas en mesure de déterminer de quel type de tuberculose souffre le patient. Donc, on met les gens sous traitement, mais ce traitement n'est parfois pas le bon, car la bactérie de la tuberculose bovine est résistante à la pyrazinamide, un des médicaments utilisés pour la tuberculose humaine. Du coup, certains patients, pour qui le traitement est inefficace, reçoivent un autre traitement, celui contre la tuberculose multirésistante. Mais cela complique encore plus la situation, car ce traitement est lourd et demande beaucoup d'argent, alors qu'il est inadapté. C'est donc un vrai gaspillage. On fait prendre un traitement lourd, parfois toxique, à des patients pauvres qui dépensent tout ce qu'ils ont pour finalement décéder dans certains cas.
Igor, a-t-on une idée de la prévalence de la tuberculose bovine chez les humains au Nigeria ?
D'après Simeon Cadmus, le vétérinaire que vous venez d'entendre, 14,6% des cas de tuberculose sont des cas de tuberculose bovine.
On ne le sait pas forcément, mais il existe une Organisation mondiale de la santé animale. Elle a été créée en 2005, c'est l'OIE. Alors Igor, quel est son objectif ?
Eh bien, son objectif est de collecter les données sur la santé animale dans ses 181 pays membres. L'OIE y parvient avec plus ou moins de réussite pour les animaux domestiques, mais pour les animaux sauvages, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Quant à son action contre la tuberculose bovine, voici les explications de Simona Forcella, chargée de mission à l'Organisation mondiale de la santé animale.
C'est pas seulement la santé des animaux qu'on considère. On considère la santé des animaux qui est strictement liée à la santé chez les humains. Donc, si on arrive à avoir des animaux qui sont en bonne santé, on va minimiser les risques pour les humains d'être infectés. On va sauvegarder la vie des animaux qui sont très importants pour les populations rurales, pour leur vie, pour la production de lait, de viande. Donc, on n'est pas en train de traiter la tuberculose chez les animaux seulement pour les animaux. Mais dans ces cas-là, c'est une zoonose qu'on va traiter. Donc, c'est strictement lié.
Donc vous avez réussi à convaincre les autorités, les bailleurs de fonds, de l'importance de s'occuper de la santé animale pour améliorer la santé humaine. Ça y est, ça c'est fait ?
C'est parfait. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un document avec lequel on peut aller et discuter. Et on a un outil qui nous aidera à faire ça.
Alors justement, que dit ce document ? Que dit la feuille de route ? Qu'est-ce qui est prévu pour améliorer la santé animale et donc la santé humaine ?
Côté santé animale, on a des outils qui sont liés à les performances de services vétérinaires. Donc, on va travailler avec le pays pour améliorer les capacités de services vétérinaires. Augmenter les capacités de services vétérinaires, ça va dire aussi augmenter la possibilité que cette maladie est détectée chez les animaux et contrôlée chez les animaux. On peut sensibiliser les pays à mieux nous donner des infos sur la présence de la maladie chez les animaux et donc, après, retourner chez les services vétérinaires ils sauront bien quel est l'impact de cette maladie dans leur cheptel. Et dans la feuille de route, on essaye d'avoir cette activité des services vétérinaires, disons, améliorée. Et bien sûr, ça va en collaboration avec la FAO, avec The Union, avec l'OMS, parce que ça, c'est lié pas seulement à la santé des animaux, mais aussi à la santé des aliments qui arrivent sur la table de les personnes. Et donc, il y a un lien qui n'est pas possible dans ces cas-là de ne pas considérer.
Très concrètement, comment transposer cette feuille de route dans des pays, notamment des pays africains, où on manque terriblement d'infrastructures ?
Alors, les standards de l'OIE sont développés pour être applicables à tous les 181 pays qui font partie de l'OIE. Donc, dans un pays qui n'a pas les moyens des pays développés, déjà améliorer les capacités des services vétérinaires d'effectuer une inspection dans les abattoirs plus efficace, donc de le bien former le vétérinaire ou le personnel qui aide le vétérinaire. Et donc avec cette feuille de route, on peut sensibiliser, on peut aider les pays à bien comprendre qui avoir un contrôle de la viande comme un contrôle de la qualité du lait est une chose qui pourra concrètement aider les pays dans ce sens.
Très sincèrement, vous êtes confiante, vous pensez qu'on va vraiment réussir à réduire la transmission de la tuberculose entre les animaux et les hommes ?
Très difficile, mais on peut le faire. Oui, non, je crois qu'on peut le faire. Et au niveau des communautés, il y a des exemples, il y a des personnes comme cette dame qui vient de la communauté Maasai, qui sont aussi...
Les Maasai du Kenya ?
Oui, sont de porte-parole au niveau mondial de ce qui peut arriver à quelqu'un qui a simplement bu un lait un verre de l'écrou et qui a été affecté par une maladie qui n'était pas bien diagnostiquée pendant des années. Donc, je crois que si nous, on commence vraiment à installer dans les personnes l'idée qu'il faut commencer à faire cette contrôle pour empêcher à la maladie de passer des animaux à des personnes, ça va arriver. Peut-être pas si vite comme on voudrait, mais oui.
Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes après le flash d'information pour parler de la recherche sur les traitements contre la tuberculose multirésistante et les nouveaux tests de diagnostic, la suite du reportage d'Igor Strauss au Mexique.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Priorité Santé. En octobre dernier, le Mexique a accueilli la 48e conférence mondiale sur la santé respiratoire, une rencontre majeure avec tous les acteurs de la lutte contre la tuberculose qui permet de dresser un bilan de la lutte contre cette maladie. Alors, quelles sont les avancées en termes d'accès aux soins des plus démunis ? Où en est la recherche de nouveaux traitements et de nouveaux tests de diagnostic ? Est-ce que l'on pourra atteindre les objectifs de développement durable, à savoir plus aucun nouveau cas de tuberculose d'ici à 2035, suite des entretiens menés par Igor Strauss, qui assistait à cette conférence pour Priorité Santé. Étudiante en médecine en Afrique du Sud, Zoli Loi travaillait sans masque de protection dans différents services des hôpitaux du Cap. Et un jour, elle est alors âgée de 22 ans, on lui annonce qu'elle est atteinte d'une tuberculose multirésistante.
Je n'y croyais pas. Même face à ce qui paraissait évident, puisque tout indiquait que j'avais la tuberculose, je me disais, non, je ne peux pas avoir la tuberculose. Je ne suis pas pauvre parce que d'habitude, les gens qui ont la tuberculose, c'est ceux qui ont le sida, qui sont pauvres, malnutris. Donc moi, ce n'était pas possible. Et puis j'ai commencé le traitement et là, c'était affreux. Je réalisais que j'avais la tuberculose multirésistante et cela m'effrayait. Les effets secondaires du traitement étaient terribles, parce que les injections te font perdre l'ouïe. Au début, ça va et ça vient, et puis tu te réveilles un matin et tu n'entends plus rien. Donc tu as peur de prendre ton traitement et de devenir complètement sourd. Tu imagines un monde de silence pour le restant de ta vie ? C'est effrayant.
Mais justement, est-ce que vous avez imaginé abandonner le traitement à cause des effets secondaires ?
Tous les jours,
je devais me battre avec moi-même, me forcer pour prendre le traitement. Le goût est infect et te donne envie de vomir. D'ailleurs, la plupart du temps, tu vomis et tu dois continuer à prendre ces médicaments. Tu te sens mal toute la journée et tu te dis que quand je ne prends pas les médicaments, tout va bien, je ne me sens pas mal. Par contre, quand je les prends, là, tu es malade. Donc, chaque matin, je me disais, c'est bon, stop, j'arrête. Je n'en peux plus. Et plus tard dans la journée, je me disais, bon, ok, j'ai envie de rester en vie. Ça, c'est au début, parce que après, tu oublies pourquoi tu as envie de rester en vie. Tout est si douloureux que tu te dis, mais je ne peux pas vivre comme ça, je ne peux pas.
Donc, 18 mois avec ces effets secondaires constants, ou est-ce que ça a diminué au bout d'un certain temps ?
Non, il y a toujours des effets secondaires. Tous les jours, j'avais des nausées, donc on te prescrit quelque chose contre les nausées, puis contre les insomnies, parce qu'on souffre d'insomnie aussi, pendant toute la durée du traitement, et même des mois après. Et puis, un des effets secondaires les plus durs, c'est la dépression. C'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais tu deviens dépressif, et ça dure parfois longtemps après la fin du traitement. C'est terrible.
Je suis le professeur Andrew Nunn. Je travaille au Conseil de recherche médicale de Londres dans l'unité des essais cliniques. La tuberculose multirésistante est un gros problème et actuellement, il n'y a pas de traitement réellement satisfaisant. Selon les recommandations de l'OMS, les patients atteints de tuberculose multirésistante doivent suivre un traitement de 2 ans, mais les résultats obtenus ne sont pas très bons.
La moitié à peine guérie.
Et certains ne sont pas traités du tout, mais même pour ceux qui reçoivent le traitement, les résultats ne sont pas bons. Si vous regardez les résultats obtenus en faisant la moyenne de tous les pays du monde ayant adopté cette stratégie, la situation n'est pas bonne et ce n'est pas normal au XXIe siècle. Nous devons trouver de meilleurs traitements pour les patients atteints de tuberculose multirésistante. C'est dans ce but qu'une étude a été menée au Bangladesh sur un traitement plus court que celui préconisé par l'OMS. Le traitement ne dure que 9 mois comparé aux 24 mois du traitement de l'OMS et, à la surprise générale, les résultats étaient très bons. Près de 85% des patients avaient des résultats favorables à l'issue du traitement. Mais pour certains esprits, la question était de savoir si ces bons résultats venaient du fait que les patients avaient été spécialement sélectionnés, ce qui pourrait expliquer des résultats supérieurs à ceux obtenus par le traitement préconisé par l'OMS. Et donc, nous avons décidé de relancer une étude clinique pour comparer les résultats entre ces deux traitements, celui de l'OMS et celui utilisé au Bangladesh. C'est donc cette étude que nous avons menée et dont nous présentons les premiers résultats aujourd'hui.
Qu'en est-il des effets secondaires? Parce qu'on sait que le traitement recommandé par l'OMS provoque des effets secondaires terribles. Donc quels sont les effets secondaires pour ce nouveau traitement de 9 mois?
Je crois que tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il n'y a pas de traitement sans effets secondaires. Certains médicaments n'ont plus que d'autres ou de plus sévères. Et nous avons pris ce facteur en compte dans notre étude pour voir la différence entre le traitement de 24 mois et celui de 9 mois. Le nombre de patients avec des effets secondaires sévères qui ont nécessité un réajustement du traitement à cause des problèmes issus de la prise des médicaments s'est avéré à peu près le même. Donc, nous n'avons pas réussi à diminuer l'impact des effets secondaires et c'est quelque chose qui devra être fait prochainement dans une autre étude.
Vous en êtes donc au stade 2 de cet essai. En quoi consiste-t-il?
Oui, et la raison pour laquelle nous abordons la phase 2 de cet essai, c'est que l'un des problèmes qui s'est posé en termes d'effets secondaires pendant la première phase était les patients qui avaient des problèmes d'audition, des problèmes de surdité causés par les injections d'un des médicaments prescrits dans le traitement. Et pour certains patients, ces problèmes étaient irréversibles. Et donc, dans cette phase 2 de notre essai, nous avons la possibilité de remplacer ce médicament injectable par un autre médicament qui vient tout juste d'être disponible, la bédaquiline. Nous espérons, et nous avons toutes les raisons de croire qu'en utilisant ce nouveau traitement, nous n'aurons plus de problèmes de surdité et nous devrions même obtenir de meilleurs résultats en général puisque c'est un meilleur médicament que l'injectable qui provoquait ces problèmes.
Alors Igor, quand aura-t-on les résultats définitifs de cet essai comparatif entre le traitement de 9 mois et celui d'une durée de 24 mois?
Le professeur Andrew Nunn espère qu'ils seront disponibles vers juillet-août 2018.
Et concernant l'étude à venir sur la réduction des effets secondaires?
Il n'y aura pas de résultats avant 3 ans, ce qui est problématique puisque ces effets secondaires terribles sont la principale cause des abandons de traitement. C'est un problème récurrent dans la lutte contre la tuberculose. Pour l'instant, on ne parvient pas à diminuer de façon conséquente les effets secondaires. On avait parlé dans cette émission d'une étude menée en 2013 dans 9 pays d'Afrique francophone pour évaluer un traitement de 9 mois avec des médicaments anciens dont un connu pour être efficace contre la lèpre. Mais ce traitement plus court ne permettait pas non plus de réduire les problèmes de surdité.
Alors face à ce problème d'accès à de nouveaux traitements, Médecins Sans Frontières Afrique du Sud a décidé d'innover. Mais avant de parler de cette initiative, il faut d'abord une nouvelle fois rappeler le contexte, Igor.
Et oui, vous le savez tous, l'Afrique du Sud a été fortement touchée par l'épidémie de sida dans les années 2000. Aujourd'hui, le pays compte 6,5 millions de personnes porteuses du VIH, soit 12% de la population, et cela a eu un impact énorme sur le nombre de malades de la tuberculose. Chaque année, environ 400 000 personnes contractent la maladie, dont 18 000 cas de tuberculose multirésistante. Une ville comme Le Cap, par exemple, enregistre chaque année 32 000 nouveaux cas de tuberculose, soit plus que les États-Unis et l'Europe réunies. Et évidemment, bien les plus pauvres sont les plus touchés. Du coup, Médecins Sans Frontières Afrique du Sud, en accord avec les autorités sud-africaines et les laboratoires fabriquant les médicaments, a décidé de prescrire deux nouveaux médicaments en combinaison thérapeutique, alors qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour connaître les interactions entre ces deux médicaments. Il y a donc un risque. Le docteur Jennifer Hughes de MSF travaille dans le township de Kayelitsa, au Cap, depuis 7 ans. Elle est en charge des patients atteints de tuberculose multirésistante et de tuberculose extrêmement résistante.
Il y a des risques avec tous les médicaments contre la tuberculose. On a toutes les données sur les essais cliniques de la bédaquiline et nous connaissons également les données sur les essais cliniques concernant la délamanide. Donc, nous savons que ces deux médicaments provoquent des effets secondaires. L'un des principaux effets secondaires concerne les effets sur le cœur. Et nous savons qu'en utilisant les deux médicaments, cela augmente les effets sur le cœur. Donc, nous surveillons les patients de très près. Mais il faut bien avoir à l'esprit que nous prenons en compte les risques et les bénéfices pour ces patients. Ceux qui sont atteints de tuberculose extrêmement résistante ont moins de 20% de chances d'être guéris vie à l'issue du traitement. Ce qui signifie qu'en face de nous, nous avons des personnes qui sont plus proches de la mort que de la guérison. Donc si vous avez le choix entre utiliser deux médicaments dont vous connaissez l'efficacité contre les tuberculoses résistantes, même s'ils provoquent des effets secondaires et un risque de mortalité très élevé, si vous ne faites rien, vous allez probablement choisir d'utiliser ces deux médicaments. Donc nous utilisons ces deux médicaments en combinaison thérapeutique, mais avec un suivi très strict des patients. Nous avons des médecins très bien formés à l'utilisation de ces deux médicaments. Nous nous assurons d'être en contact régulier avec les patients pour pouvoir les soutenir et nous contrôlons régulièrement leur sang pour éviter la survenue de certains problèmes.
Alors très concrètement, quels ont été les résultats et faut-il développer, intensifier la prise de ces deux médicaments ?
Nous utilisons ces deux médicaments en combinaison thérapeutique depuis moins de 2 ans. Or, le traitement complet de la tuberculose multirésistante est de 2 ans. Donc nous venons seulement d'obtenir les premiers résultats. Les premiers patients que nous avons mis sous traitement étaient déjà à un stade avancé de la maladie. Donc nous n'avons pas été surpris en voyant que les premiers résultats n'étaient pas très bons, puisque ces patients avaient peu de chances de s'en sortir. Mais ce qu'on remarque pour la majorité des patients, c'est qu'ils supportent très bien ces deux traitements, ce qui est d'ailleurs confirmé par la culture du crachat, qui montre que la bactérie est tuée dans le crachat, ce qui est un très bon signe. Et puis la majorité des patients que nous avons mis sous traitement est encore en vie, ce qui est un signe très encourageant, qui montre une fois de plus que le traitement fonctionne. Nous allons donc promouvoir l'accès à ces deux médicaments pour tous les patients atteints de tuberculose multi ou extra-résistante dans toute l'Afrique du Sud et le reste du monde.
Écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre la tuberculose. Après les essais sur les nouveaux traitements, nous allons nous intéresser maintenant aux nouveaux tests de diagnostic rapide. Igor Strauss, quels sont les tests utilisés actuellement ?
Aujourd'hui, pour tester un patient, il faut soit avoir recours au microscope, ce qui est imprécis et peu fiable avec seulement 50% de cas détectés, soit faire de la culture microbiologique, un test compliqué qui nécessite un laboratoire, des techniciens formés et qui prend du temps puisqu'on a les résultats en plusieurs semaines. Il existe également le test appelé GeneXpert, un test moléculaire plus rapide, 1 à 2 heures, mais qui demande d'avoir accès à l'électricité, ce qui n'est pas le cas dans toutes les zones les plus reculées de la planète.
Et du coup, différents tests sont à l'essai. L'un d'eux est mené par la société française Omunis, créée en 2014. Pierre-Alain Rubaud est l'un des 3 cofondateurs de cette société.
Les tests de diagnostic aujourd'hui pour la tuberculose sont des tests qui ne permettent pas de faire du dépistage à grande échelle, qui est aujourd'hui une des raisons pour lesquelles la tuberculose existe toujours. Du coup, les tests qui existent aujourd'hui, les tests de référence, sont des tests qui s'intéressent à détecter dans les sécrétions pulmonaires des bactéries, dans les crachats en fait. Donc c'est compliqué, ces tests qui sont compliqués à faire, à mettre en œuvre. Ça demande de la formation des techniciens qui mettent en œuvre les tests. Cracher n'est pas toujours évident dans certaines catégories de population. Et puis c'est pas évident de bien cracher. Les enfants ont du mal à bien cracher, par exemple. Donc c'est des tests qui sont intéressants, mais qui sont pas optimaux. Donc il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir un test sérologique, comme on l'a dans d'autres maladies, comme le HIV ou les hépatites, qui détecte dans le sang des patients les anticorps, qui signent en fait la présence de la maladie. Alors les tests sérologiques existent toujours pour la tuberculose. C'est des tests qui ont fait l'objet pour la première fois dans l'histoire d'une recommandation négative de l'OMS. Donc l'OMS incite les fabricants de tests de diagnostic à développer de nouveaux tests sérologiques pour avoir des tests qui fonctionnent et qui sont validés sur des populations malades. Donc j'ai travaillé avec différents laboratoires pour identifier de nouveaux biomarqueurs qui sont spécifiquement exprimés dans une phase très spéciale de la maladie, qui est la phase de réactivation, donc le passage de la phase latente de la tuberculose à la phase active. Donc la tuberculose a 2 phases, la phase latente qui est la phase asymptomatique, qui est la phase finalement non grave de la maladie. Ça touche environ 1/3 de la population mondiale, donc c'est gigantesque. Et la phase active de la maladie, qui est la tuberculose active et qui est la phase grave, qui nécessite un traitement le plus rapidement possible pour éviter la transmission de la maladie et également le décès du malade. Donc à partir de ces biomarqueurs qu'on a identifiés et qu'on a ensuite brevetés, on a développé un test sérologique qui vise à détecter des anticorps qui sont complémentaires de ces biomarqueurs. dans le sang des patients. Et donc d'identifier si ces anticorps sont présents, la maladie indirectement est présente chez le malade. Donc c'est la différence avec les tests actuels, les tests de référence qui sont des tests qui détectent la bactérie dans les sécrétions pulmonaires. Nous, on détecte des anticorps signant la présence de cette maladie dans le sang des patients. C'est ce qu'on appelle un test diagnostique indirect. Et donc on a développé une première version qui fonctionnait de manière tout à fait satisfaisante, et dans l'objectif d'améliorer les performance du test et la sensibilité notamment, qui est très importante pour un test de screening, un test de dépistage de la tuberculose. On travaille aujourd'hui avec une autre entreprise avec laquelle on a combiné nos technologies, et on utilise maintenant une technologie sur nanobilles magnétiques. Alors, des nanobilles magnétiques, c'est en fait c'est comme des billes, comme on connaît les billes qui existent, avec lesquelles on jouait dans les cours d'école, sauf qu'elles sont à une taille du nanomètre, invisible à l'œil nu, visible au microscope. L'utilisation de ces billes sur lesquelles on va mettre nos différents biomarqueurs va permettre d'identifier avec une meilleure sensibilité les anticorps qui sont présents dans le sang. En fait, la problématique de la tuberculose, c'est que c'est une maladie qui reste cachée, c'est une maladie qui a différentes phases, etc. Et donc la présence d'anticorps n'est pas toujours évidente à mettre en évidence. Et donc avec une technologie sur nanobi qui permet d'avoir une sensibilité beaucoup plus élevée du test, on va pouvoir détecter beaucoup moins d'anticorps présents. Ils sont présents, on les détectait pas parce que les technologies ne le permettaient pas. Maintenant, ces technologies le permettent. Et donc, avec cette technologie et nos biomarqueurs, on arrive à des performances de sensibilité qui sont très bonnes et qui sont similaires à celles attendues par l'OMS.
D'après Pierre-Alain Rubaud, le prototype de ce nouveau test est très satisfaisant et il espère que ce test sera disponible d'ici 2020 pour un coût inférieur à $10. Un autre test est en cours d'évaluation en Afrique du Sud. Présentation par Angélique Louabeya, médecin-chercheur à l'Université du Cap.
On a pensé à prendre les cellules dans la muqueuse orale. Donc on a testé dans la joue, sur les gencives et sur la langue. Pourquoi on a pensé à ça? C'est parce que, si vous voyez bien, les malades qui ont la tuberculose pulmonaire, ils passent leur temps à tousser, et ils toussent pendant longtemps. Et pendant qu'ils toussent, absolument, les crachats sortent par la bouche, et même la transmission, parce que vous devez savoir que la tuberculose se fait par transmission barvorale. Et il faut aussi savoir que la bactérie elle-même a la possibilité d'adhérer sur des surfaces. Donc, on a la surface dans la muqueuse orale et on a pensé qu'en retirant quelques cellules et quelques matériels, on peut trouver quelques ADN de mycobactérien chez les patients. Et on a testé ça comme un concept pour voir est-ce que c'est vrai, cette hypothèse-là. Et sur 20 patients, on a trouvé le ADN du mycobactérium dans 18 patients. Et ça, ce sont des patients qui ont été confirmés avec le GeneXpert sur le crachat. Ce qui est intéressant, c'est que le prélèvement oral est facile à faire. Il est facile à transporter. Même chez les enfants ou les patients qui sont très malades, qui ne savent pas donner du crachat. Et dans des situations comme ça, parfois, on doit introduire des tubes nasopharyngés pour prendre un peu de sécrétion pour pouvoir faire la culture. Dans ce cas-ci, ce genre de prélèvement oral est très facile et peut être fait sur tous les patients. Donc, on était très excités par ces résultats et on a fait une deuxième étude, mais avec un échantillon plus large. Donc, on a recruté un plus grand nombre de patients, 175. Et ce qui était intéressant, c'est que on les a recrutés avant qu'ils soient diagnostiqués avec le GeneXpert sur le crachat. Et parmi ces 175 patients, on a eu 49 patients qui ont été confirmé par le crachat et GeneXpert. Et nous, avec le prélèvement oral, on a détecté le DNA de Mycobacterium dans 45 sur 49. Et encore plus intéressant, il y a eu des cas de tuberculose qui n'ont pas été détectés par le crachat à l'hôpital avec le GeneXpert. Sur ces patients-là, il y en avait 11, nous on a détecté 5 avec le prélèvement oral que le GeneXpert n'avait pas détecté.
C'est-à-dire qu'en fait, ce serait plus précis même que les tests traditionnels, ce qu'on appelle le GeneXpert.
Le GeneXpert. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous combinez le GeneXpert et le prélèvement oral, votre capacité de détection augmente. Donc, vous avez une plus grande chance de détecter certains cas qui ne sont pas détectés traditionnellement par le GeneXpert. Donc, pour le moment, on est très excités parce qu'on a des résultats très prometteurs, mais on attend encore pour pouvoir les confirmer avec un plus grand nombre de patients. Et ça, c'est la prochaine étape.
Alors ce prélèvement oral, c'est fou parce que ça paraît tout simple.
Absolument.
Et on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant finalement.
Absolument. Je crois que notre recherche scientifique, notre mental est plus attiré par les solutions complexes. Et parfois on oublie d'observer les choses simples. On s'est posé seulement la question, mais pourquoi si le malade tousse pendant 3 mois, 4 mois et il transmet le mycobactérium, pourquoi n'y aurait pas quelques-uns qui seraient restés dans la cavité orale? Pourquoi est-ce que dans les cellules, le mycobactérium n'adhérerait pas à certaines surfaces? C'était une question simple. Et c'est pour ça que l'observation dans la recherche scientifique est très importante. Parfois, on passe à côté des choses simples en cherchant des solutions plus compliquées. Et on a été très excités de voir que on a pu mettre en évidence ce simple concept, mais qui peut avoir des implications de potentiel de, par exemple, chercher les cas qui ne sont pas symptomatiques, qui ne sont pas encore à la clinique, ou les individus qui sont en contact avec les cas qui sont déjà déclarés, est-ce qu'ils ont déjà l'ADN de la bactérie dans la cavité orale, et ça peut se faire sur une large population, plus facilement que si vous prenez le crachat. Imaginez si vous devez prendre le crachat sur 2000, 3000 personnes, c'est un peu plus complexe logistiquement, mais que si vous prenez juste un prélèvement oral et que vous gardez dans un petit buffer, vous pouvez le faire plus facilement.
En guise de conclusion et pour faire écho à ce que nous disions au début de cette émission, Igor Strauss a demandé au professeur Michel Kazatchkin, envoyé spécial sur le sida pour l'ONU dans les pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale, si on pouvait parler d'échec de la politique actuelle en matière de lutte contre la tuberculose.
Effectivement, si on regarde les indicateurs, on est loin encore de la possibilité d'éliminer. Et dans la plénière que je viens de faire, j'ai dit que nous étions à la fois dans un moment d'opportunité et puis un moment de risque très élevé. L'opportunité, c'est que si l'on regarde quand même les 30 dernières années, l'incidence de la tuberculose, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas dans le monde, diminue. La mortalité de la tuberculose, dans l'ensemble, a diminué considérablement. Et les interventions que l'on a sont certainement des interventions qui sont extrêmement coût-efficaces maintenant. Mais d'un autre côté, ces succès d'abord sont très inégalement répartis dans le monde. Ensuite, alors même que la tuberculose diminue, on voit grandir et s'accélérer en croissance la survenue de formes résistantes de tuberculose, et c'est ça maintenant la grande menace, la tuberculose multirésistante, en particulier en Afrique, en particulier en Europe de l'Est et en Asie centrale. On voit aussi des populations qu'on appelle les populations clés ou les populations les plus vulnérables qui sont totalement laissés dans la vulnérabilité. Il s'agit des plus pauvres, dans le cas de la tuberculose, et il s'agit, comme dans le cas du sida, des personnes usagères de drogue. Il s'agit aussi de nouvelles populations dont on identifie les risques, comme les migrants. Et donc, ce n'est pas un hasard si cette attention aux populations clés, le slogan « No one left behind », est vraiment,
donc ne
laissons personne de côté, est le slogan numéro 1 des Nations Unies dans le cadre des objectifs du développement durable. Donc, la tuberculose est venue avec un certain nombre de succès, mais c'est une maladie maintenant à très haut risque si on ne s'adresse pas à ces populations vulnérables, si on n'acquiert pas de nouveaux instruments, médicaments et vaccins, et si on ne couvre pas l'énorme gap financier qu'il y a entre les besoins et le financement actuel, qui est très 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 en dessous de ce qu'il faudrait. Donc il y a une responsabilité mondiale collective à prendre, et c'est pour ça que nous mettons tous des espoirs dans la réunion de haut niveau, l'Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies, qui se tiendra, et ce sera la première pour la tuberculose, en 2018.
Vous pensez que là, on pourra trouver justement des financements, ces financements qui manquent ?
Écoutez, ces réunions sont là pour faire prendre conscience de ce qu'il y a une crise majeure de santé publique à l'échelle mondiale, et donc mobiliser la communauté internationale. Ce sont des réunions à l'échelle des chefs d'État. Ce sera la première dans l'histoire pour la tuberculose, mais il y a plusieurs autres maladies qui sont ainsi montées, si j'ose dire, de des cercles de Genève, où sont toutes les organisations de la santé onusienne, au domaine plus politique à New York, le sida, c'était en 2000, et maintenant la tuberculose. Donc on va replacer la tuberculose comme une priorité de l'effort de santé mondiale.
Faut-il s'inquiéter quand on connaît les personnes qui sont à la tête de certains grands États ?
Il y a des contre-pouvoirs dans ces grands États. Je pense que vous faites très directement allusion aux coupes budgétaires importantes sur l'aide au développement international que le président Trump avait proposé. Mais comme vous l'avez vu, le Congrès a rééquilibré les choses. Mais les États-Unis restent bien sûr le premier financeur de l'aide internationale en chiffre absolu. Mais il est temps maintenant, et surtout avec ce que je disais sur le fait que ces grandes maladies sont pour la grande majorité dans les pays à revenus intermédiaires, il est temps que ces pays consacrent des budgets plus importants à la justice sociale et aux investissements dans la santé.
Alors Igor, peut-être cette piste, donc investir davantage dans la justice sociale et la santé ?
Oui, et pourquoi pas atteindre les 15% du budget de l'État accordé à la santé, comme de nombreux pays d'Afrique et d'Asie s'étaient engagés à le faire.
Merci Igor Strauss pour ce compte-rendu de la 48e conférence sur la santé respiratoire qui s'est tenue le mois dernier au Mexique. Didier Bleu a assuré la réalisation de cette émission Priorité Santé. Et demain, nous parlerons des relations fraternelles, relations faites entre autres d'amour, de rivalité et de jalousie. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance. RFI.